Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour la dernière émission de la semaine. Nous allons la consacrer au Cotopaïs, c'est-à-dire au centre spirituel jésuite du Sud-Ouest, à leur mission et aux activités et formations qu'ils proposent. On vous en dit plus dans quelques instants avec les invités de ce numéro. Et j'ai le plaisir de recevoir trois invités aujourd'hui. Je salue Karine Jean-Jambre, Brigitte Lécuel et Xavier Lavignotte. Bienvenue également, sachant que vous œuvrez tous les trois au sein des Cotopaïs à l'animation et à la formation. Et avant de parler de ses objectifs, des objectifs de cette association, de ce qu'elle propose, je vais vous demander de présenter l'un après l'autre les domaines dans lesquels vous intervenez au sein de ces établissements. Mais on va commencer avec Karine Jean-Jambre.
Bonjour. Alors moi j'interviens plutôt auprès des jeunes, aussi pour les retraites spirituelles. Et puis je m'occupe de la constitution d'une antenne locale en Haute-Garonne. Et je fais aussi actuellement une formation à l'écoute.
Brigitte Lécuel.
Alors moi je suis plutôt le hors-programme, c'est-à-dire les demandes qui nous sont faites en plus de nos propositions par une paroisse, par un service diocésain, par exemple de la catéchèse pour une halte spirituelle, une journée diocésaine. Voilà, j'accueille et je vois comment y répondre.
Et enfin Xavier Lavignotte.
Alors moi je m'occupe de plusieurs choses également. D'abord des sessions pour les étudiants de l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers de Toulouse, qui propose des sessions pour ses étudiants de fin d'année. Je m'occupe également de la partie couple et famille de nos propositions. Et je suis également les propositions que nos bénévoles proposent en termes de formation et d'animation au long de l'année. Et également, je participe cette année à la formation à l'accompagnement spirituel.
On va reparler de tout ça bien sûr, mais vos présentations respectives donnent déjà une idée de ce que proposent les Cotopaïs. Il faut qu'on précise tout de même ce que sont ces propositions et de manière générale ce qu'est la mission des centres spirituels jésuites. Qui se dévoue pour cette présentation, bon, de façon résumée pour l'instant, alors peut-être Brigitte Lécuel.
Alors je pense qu'on peut dire que les centres spirituels jésuites essayent de répondre aux besoins spirituels de notre temps à travers différentes propositions, l'accompagnement individuel dans la vie, des temps plus privilégiés de retraite, mais aussi des formations, formation à l'écoute, formation à l'accompagnement spirituel, pour divers publics. D'où ce que disait Xavier tout à l'heure, des propositions à l'attention des couples, des familles. Voilà.
Est-ce qu'on peut résumer tout ça en disant que c'est une aide à la croissance spirituelle pour tout un chacun, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par vos propositions?
Tout à fait.
Selon l'expérience spirituelle de Saint Ignace de Loyola, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant.
Oui, Saint Ignace disait que... Enfin, lui, il identifiait sa vocation personnelle comme le souci d'aider les âmes. Le mot âme, aujourd'hui, c'est peut-être un mot qu'on emploie à nouveau un petit peu plus, mais c'est vraiment le souci de la croissance intérieure des personnes, la croissance spirituelle.
Voilà, Saint Ignace a une phrase qui dit « Cherchez et trouvez Dieu en toutes choses ». Et l'acte de foi, c'est que chacun peut, en prenant des moyens, peut-être faire l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie, là où peut-être il ne le voyait pas au départ.
Alors je l'ai dit, ces Cotopaïs, ce sont les centres spirituels jésuites du Sud-Ouest. Où êtes-vous présent dans le Sud-Ouest?
Alors la particularité du centre spirituel des Cotopaïs par rapport à d'autres centres comme le Châtelard ou Penboc, c'est qu'on a notre base, nos bureaux à Toulouse, mais on a des antennes locales dans différents diocèses. Et on va, à partir de Toulouse, animer des propositions des Cotopaïs dans différents lieux d'accueil du Grand Sud-Ouest.
Et à quoi comme base, par exemple, comme maison d'accueil? Vous avez employé le terme de maison d'accueil.
Les maisons qui nous accueillent, ce sont le plus souvent des communautés religieuses, en fait, qui disposent de capacités d'accueil. Par exemple, l'abbaye de Tournai.
Dans les Hautes-Pyrénées.
Dans les Hautes-Pyrénées, pas très loin de Tarbes. L'abbaye de Belloc dans les Pyrénées-Atlantiques. On a également des propositions qui ont lieu en Calcat. Donc, des lieux comme cela. Le lieu qui nous accueille le plus souvent en ce moment, c'est le couvent de Weilatz, qui se trouve à côté de l'Albinque, donc dans
le sud du Lot.
Le sud du Lot, et qui accueille en particulier nos retraites d'été, où là, c'est vraiment le lieu où on fait une proposition importante.
Mais en fait, vous êtes présent dans le Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire aussi bien dans la région occitanique qu'en Nouvelle-Aquitaine. Hein.
Oui, on est à cheval sur les deux, et en fait, on fait des propositions qui vont de Bayonne à Perpignan, en suivant la ligne des Pyrénées. Et en remontant un petit peu aussi vers le massif central sud.
Oui, parce qu'il y a Rodez, je crois, il y a même la Dordogne.
C'est ça. On a une proposition en partenariat avec les chemins ignatiens bordelais à Échourgnac. Et puis, on va aller animer une retraite cinéma dans l'abbaye de Maumont, près d'Angoulême.
Donc, ça va même jusqu'à Charente.
C'est ça.
Comment vous travaillez avec les diocèses? Vous êtes vraiment en lien étroit avec eux?
On a des liens avec tous les évêques. Ensuite, par exemple, le séminaire demande régulièrement une formation à l'accompagnement spirituel pour les séminaristes qui sont dans l'année vocationnelle. Et puis, voilà, des évêques envoient l'un ou l'autre prêtre en formation à l'accompagnement spirituel et des demandes ponctuelles de paroisses ou
de retraite aussi.
Oui, parce que ça s'adresse, vos propositions, aussi bien à des religieux qu'à des laïcs, des jeunes, des couples, des familles, toutes les générations.
Tout à fait, à des personnes qui peuvent être engagées dans les services d'église, mais aussi, justement, une retraite de une semaine de prière accompagnée, comme celle dont Karine va pouvoir parler, qui se prépare à Toulouse, va rejoindre des gens de la paroisse qui la propose, et peut-être de quelqu'un qui va entrer dans cette église, qui va voir l'affiche et qui va venir participer à cette proposition, alors qu'il n'est peut-être pas forcément pilier de cette paroisse.
Karine Jourjou.
Oui, je pense qu'il est important de préciser que la spiritualité ignatienne est vraiment, fait partie de la tradition de l'église, et donc est vraiment au service de l'église dans son ensemble.
Une chose qu'on n'a pas précisé, mais je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent, c'est le statut des Cotopaïs, c'est vraiment un statut associatif. Hein.
Oui, c'est une association qui a été créée il y a quelques années, en fait, après la fermeture de la maison qui s'appelait Notre-Dame des Coteaux et qui était un centre spirituel plus traditionnel avec un lieu d'accueil inclus. Et cette association a été créée parce que les jésuites souhaitaient s'appuyer en fait sur un réseau de personnes dans les églises du Sud-Ouest qui allaient pouvoir soutenir en fait cette action sur la durée. Et c'est une association qui fonctionne régulièrement. On a eu notre assemblée générale au mois de décembre. Voilà.
Et donc, vous vous financez avec vos propositions qui sont payantes. Hein. Bon, ça, je le dis pour ceux qui n'auraient pas forcément compris. Et puis aussi, vous avez le soutien des diocèses.
Le soutien des diocèses, nous aimerions l'avoir. Nous avons essentiellement le soutien pour l'instant des jésuites qui nous versent une allocation annuelle. Pour l'instant, on rend service aux diocèses, en fait, au cas par cas.
Oui, parce qu'ils vous font des demandes parfois bien précises.
Oui, c'est ça. Soit ils nous font des demandes précises, par exemple pour la formation de prêtres à l'accompagnement spirituel, mais aussi pour la formation à l'écoute, pour les services diocésains. On répond à des demandes ponctuelles. On sait que les évêques en France réfléchissent depuis quelques années à la question de la vie spirituelle et de l'apprentissage de la vie spirituelle. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel nous avons une expérience et nous sommes prêts à rendre tous les services.
On pourrait envisager des partenariats pour développer ces formations auprès des services diocésains ou des propositions d'accompagnement de groupe pour tous les jeunes catéchumènes, les jeunes néophytes. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent s'inventer. On est à leur disponibilité pour réfléchir avec eux.
Les membres des Cotopaïs, que ce soit des bénévoles ou des intervenants pour les formations, ce sont toujours des laïcs ou ça peut être des religieux aussi?
Alors,
on va commencer par nous autour de la table.
Voilà, c'est ça. Si on commence par nous, moi je suis religieuse Xavier.
Moi Xavier, je ne suis pas religieuse Xavier, mais je suis.
Vous me l'avez enlevé de la bouche.
Oui, vous savez.
Mais volez le jeu de mots.
Non, en fait, moi je suis laïque, je suis père de famille, grand-père. J'appartiens à une communauté de laïcs qui est la communauté de vie chrétienne, donc dans la famille ignatienne. Mais bon, je suis un laïc.
Et vous, Karine?
Et moi, je suis laïque consacrée.
Ce qui veut dire? Tout le monde ne sait pas forcément, quand on dit un laïc consacré, qu'est-ce que c'est un laïc consacré?
Ça veut dire que mon état de vie, c'est un état de laïc, que je fais partie du peuple, si on peut dire
oui,
ça
oui,
comme ça,
oui.
Et que je suis consacré à Dieu.
Sinon, les intervenants, en dehors de vous, bien sûr, oui. Parce qu'il y a des spécialistes suivant les propositions que vous faites, c'est aussi religieux, laïc.
Alors, c'est assez complet, en fait, parce qu'on a des jésuites qui interviennent.
Oui.
On a aussi des prêtres diocésains qui se sont formés, qui participent à nos interventions. On a des prêtres, par exemple, des pères de Bétharam qui interviennent aussi.
On a l'un ou l'autre religieux qui assure des accompagnements. Il y en a à Tournaille, une sœur de l'Assomption sur le haut de la région, une sœur qui participe à la formation de l'accompagnement spirituel.
Tout à fait. Donc on a en fait des gens et des laïcs. Mais souvent, en fait, on se rend compte qu'on est extrêmement complémentaire dans nos actions et qu'on n'a pas, il n'y a pas des champs qui soient réservés aux uns ou réservés aux autres.
Et je crois que c'est la chance et la force aussi des Cotopaïs, c'est tout ce réseau qui s'est tissé de bénévoles qui sont entrés en venant participer à une proposition, qui ont trouvé du sens et qui ont pris goût à cette spiritualité et qui ont désiré se mettre aussi à leur tour au service des personnes qui demandent quoi, et des propositions. Donc ça, c'est une force d'avoir tous ces animateurs dans des différents lieux.
C'est-à-dire que tout le monde communique, chacun n'est pas dans son couloir, c'est ce que je comprends de ce
oui,
que vous avez dit.
Hein. Avec des choses intéressantes, parce qu'on a des gens qui sont d'une spiritualité qui n'est pas ignatienne, qui restent dans leur spiritualité, dans leur famille spirituelle. Mais dans ce que nous proposons, on propose des méthodes ignatiennes. C'est un petit peu différent. On propose une boîte à outils qui peut être adaptée en fait, à une spiritualité différente. Mais ce qu'on propose aussi, c'est quand même une expérience d'église intéressante. Parce que vu l'étendue de notre réseau et des personnes qui y participent, ça crée un lieu de rencontre et d'action commune au sein de l'église avec des gens qui viennent finalement de communautés un petit peu différentes, de lieux d'implantation différents qui là peuvent se retrouver.
Alors si on rentre un peu dans le détail des propositions, qu'est-ce qu'on va trouver et à quel public s'adresse chacune d'entre elles ?
Peut-être que les propositions, enfin là où on reçoit beaucoup de demandes, c'est des demandes d'accompagnement personnel dans la vie, des personnes qui veulent prendre le moyen régulièrement, tous les mois et demi, de relire leur vie sous le regard de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, avec la présence d'un frère, d'une sœur aînée dans la foi, formée à l'accompagnement spirituel, qui est supervisé, des personnes vraiment qui sont formées. Et donc ça, c'est quelque chose, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une demande qui arrive. On sent que c'est un besoin pour les gens de prendre ce moyen pour vivre leur vie en prenant vraiment la conduite de leur vie sous le regard.
Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes dans ce domaine ?
Alors, plus en plus, je ne sais pas parce que je suis arrivée en septembre, mais moi, je suis quand même étonnée du nombre de demandes.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en quête de sens, c'est ouais. Ce que je comprends, et de sens spirituel notamment.
Ouais. Oui, et puis l'accompagnement spirituel, c'est un accompagnement personnel. Et donc, ça permet aussi aux personnes de se poser vraiment les questions existentielles de leur vie, en fait. Ce qui vraiment les touche au cœur et d'avancer sur ce point-là, avec quelqu'un qui va les aider à y voir clair en eux.
Et notre réseau fait qu'on peut répondre au plus près des personnes, c'est-à-dire on a des accompagnateurs dans tout le Grand Sud-Ouest. Et si on reçoit une demande, je ne sais pas, de Lavore ou de Tarbes, on va pouvoir trouver. Ils ne seront pas obligés de venir
près,
à Toulouse ou d'aller à Lourdes.
100,
ou d'aller,
200 km
voilà. Donc ça, c'est quand même une force.
Trouver ce qui leur convient.
Et à partir de cette porte de l'accompagnement spirituel, il y a toutes les demandes autour des retraites. Des personnes qui veulent prendre plus que ce moyen régulier qu'est l'accompagnement spirituel, mais qui veulent prendre le temps, 3 jours, 5 jours, 8 jours, de s'arrêter pour faire le point.
Oui, alors la durée justement de ces retraites, elle est variable suivant les demandes des personnes ou vous avez des choses comme ça, c'est 3, c'est 5, c'est 7, je ne sais pas.
Dans notre programme, on a des propositions sur 3, 5, 8, 10 jours. Et la grande retraite ignatienne, c'est 30 jours. Si on veut vraiment faire les exercices spirituels dans leur ensemble, ce qu'on fait en général quand on discerne une vocation particulière ou quelque chose de vraiment important ou qu'on veut vraiment creuser cette spiritualité, alors on fait 30 jours.
On a proposé les 30 jours, mais on ne le propose pas depuis un an ou deux. Mais les Ecoto ont eu des années où ils ont proposé les 30 jours. Et l'un ou l'autre accompagnateur d'Ecoto peut ponctuellement accompagner des 30 jours à la demande d'une personne, prendre les moyens pour que cette personne puisse par exemple venir sur Toulouse et puis avoir des 30 jours accompagnés.
Alors 30 jours, ça va s'adresser plutôt à des gens qui sont déjà dans la vie religieuse ou qui veulent y entrer ou ça peut être vraiment qui si je puis dire.
Ça peut être, enfin, ce que disait Karine, c'est-à-dire une décision importante, une réorientation de vie, un départ en retraite précipité ou quelque chose arrive et j'ai vraiment besoin de prendre, c'est une grande décision quoi.
Quelque chose qui va marquer une rupture dans une vie.
Voilà, une réorientation en tout cas, un virage dans une vie.
On voit quelquefois aussi des religieux ou des prêtres qui, après 20-25 années de sacerdoce ou d'engagement religieux, prennent ce temps pour faire un point.
Une relecture et voir où Dieu les appelle maintenant.
Mais les 30 jours, c'est quelque chose qui demande un investissement personnel fort à plusieurs titres, parce que ça demande du temps, ça a un certain coût également. Et puis, les enjeux sont forts. Je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent, si on leur dit « vous allez faire une retraite de 30 jours », en silence.
Oui, voilà. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, a
priori. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Par contre, on a des propositions, et j'insiste, qui s'adressent vraiment à tout le monde. On a des retraites qui commencent avec 3 jours, en arrivant la veille, en repartant le lendemain. Et en 3 jours, ce qu'on peut expérimenter est quand même très très fort. Et puis, une retraite de 10 jours, déjà, ça permet de faire un travail personnel extrêmement important. Donc, il ne faut pas regarder tout de suite la version...
Non, puis après, on peut se projeter éventuellement sur des durées plus longues.
On peut se projeter...
L'année suivante ou les années à venir.
Oui. Je crois que ce que dit Xavier, c'est juste. C'est-à-dire, il y a des choix qui peuvent nous amener à prendre les besoins de retraite aussi importante que les 30 jours, mais de manière générale, c'est une retraite de 8 jours. Si on a un choix à faire, déjà une retraite de 10 jours, comme il l'a dit, permet de poser des choix. Et de plus en plus, on voit qu'il faut accompagner, parce que les gens viennent de loin, n'ont pas forcément le background chrétien qu'on
vous
pouvait avoir
loin,
il y a quelques...
Vous ne parlez pas de distance, là.
Non, je ne parle pas de distance, mais voilà. Et du coup, on a quand même ces retraites d'initiation 3 jours, 5 jours. On voit qu'il y a des gens qui entrent par là et qui progressent de 3 jours à 5 jours, à 8 jours.
Oui, j'ai vu, il y a des exercices spirituels, des retraites spirituelles, puis il y a ce que vous appelez des haltes spirituelles. C'est quoi la différence? C'est une question de durée, là? Ou le contenu n'est pas le même?
Le contenu n'est pas le même, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, dans une halte spirituelle, par exemple, il y en a une qui va se faire ce week-end, non?
À Urt, oui.
À Urt, autour du thème « lâcher prise ». Ça sera la pédagogie ignatienne, mais qui va être monnayée sur ce temps de week-end ou sur une journée marcher, prier. L'idée, c'est prendre le temps de s'arrêter et de me mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour me ressourcer, pour retrouver un peu d'allant dans ma vie. Faire silence.
La halte, c'est vraiment une halte. Et le premier gain que l'on a, c'est de s'arrêter dans son rythme quotidien et de se réouvrir à la présence de Dieu, de lui faire un peu de place dans sa vie, de rencontrer des frères et des sœurs en Christ, de se laisser toucher par la parole.
De célébrer ensemble.
De célébrer ensemble. Une retraite, selon les exercices de Saint Ignace, ce que nous proposons, c'est quand même plus personnel. Ça demande de se plonger dans le silence.
C'est pas le même investissement.
C'est pas le même investissement. En fait, une retraite, selon les exercices, c'est vraiment un exercice. Et je ne veux pas un exercice scolaire. Je veux parler d'exercice physique. Ignace lui-même compare les exercices spirituels à des exercices physiques. Et Karine pourrait nous dire quelque chose d'ailleurs à ce sujet-là, sur la manière dont on appelle les exercices spirituels dans certains pays.
Ah oui. Moi, il se trouve que j'ai fait ma première retraite ignatienne en Syrie, il y a déjà quelques temps, et qu'en arabe, en fait, le mot retraite spirituelle, ça se dit riyada ruhiyya, c'est-à-dire sport spirituel.
Ce qui est très parlant.
Mm-hmm. Ce qui est très parlant, c'est la traduction du mot exercice.
Oui, oui.
Oui, ça demande de s'exercer, et donc ce n'est pas vraiment une halte. Et souvent, après une retraite, selon les exercices, il faut prévoir un temps d'atterrissage.
Oui. Alors, il y a les retraites, les haltes, et puis il y a des formations. Qu'est-ce que vous proposez comme formation? On en a déjà évoqué quelques-unes, mais on va préciser un peu cet aspect-là.
Alors, par exemple, en ce moment, à Toulouse, il y a une formation à l'écoute qui est en cours. Donc, c'est une formation sur 4 jours où on apprend dans une visée qui est quand même spirituelle, mais pas seulement, enfin, quand même, avec cette dimension-là, à se positionner comme écoutant. Les participants sont des personnes qui se destinent ou qui sont déjà dans des services, par exemple, de soins palliatifs, d'accompagnement de jeunes, enfin voilà, tous les services.
Dans des EHPAD aussi, hein, des gens qui travaillent avec des personnes très âgées.
Oui, tout à fait. Tous les gens qui sont au service de personnes. En fait.
Service à la personne.
Et cette formation, on l'a aussi proposée à Belloc, par exemple, au mois de novembre. Si quelqu'un ne peut pas faire Toulouse, qu'il regarde le programme, parce que généralement, il y a au moins 2 propositions par an dans
Belloc
les lieux différents.
Se trouve
Belloc
dans
qui 64, se trouve dans le
Pyrénées Atlantiques, voilà. Pyrénées-Atlantique. Pas très très loin de Bayonne.
Oui, c'est une formation qui peut être aussi faite à la demande. S'il y a une équipe particulière qui souhaite se former, on peut adapter cette formation sur 2 jours.
C'est-à-dire qu'il y a un côté sur mesure, il y a des demandes bien particulières.
C'est-à-dire qu'on a un programme où on a des propositions pour toute personne et puis ensuite on a la possibilité d'établir des formations sur mesure.
Par exemple, une équipe deuil nous a demandé une formation à l'écoute avec cette spécificité d'écouter des personnes en deuil.
Et dans le même ordre d'idée, toujours sur une formation à l'écoute, la maison L'Oasis a ouvert sur Toulouse là, récemment et nous assurons la formation de leurs personnes à l'accueil avec une formation à l'écoute qui a été renouvelée.
Il y a des formations aussi qui s'adressent, en tout cas des propositions spécifiquement à des jeunes ou spécifiquement à des couples ou à des familles. C'est quel genre de formation ça?
Alors là, par exemple, on a eu une proposition qui est assez récente, qu'on a déjà faite, mais qui a un certain succès, c'est habiter ma place d'aidant. On a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec, dans leur famille, des personnes âgées, dépendantes, avec des problèmes de santé lourds, qui se répercutent en fait sur les personnes en situation d'aide. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a perçu, et du coup on a proposé des formations qui sont aussi des temps d'échange, qui permettent de déposer un petit peu le sac, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, de se soutenir. Et c'est une proposition qu'on a déclinée dans plusieurs lieux.
Ce qui s'adresse aux couples, c'est quel genre de formation? C'est pour des gens qui ont des difficultés relationnelles dans leur couple ou pas forcément?
Alors, il y a plusieurs types de propositions et on pourrait peut-être répondre à plusieurs voix. Par exemple, un week-end qui a été proposé 2 fois dans l'année autour de S-lui, S-elle. Là, c'est plutôt des jeunes couples qui s'inscrivent avec leurs conjoints parce qu'ils envisagent de construire leur vie à deux et qui veulent prendre le moyen de se dire...
C'est plutôt des couples qui sont au début du
début du parcours, au début d'une relation. Donc ça, il y en a un week-end à Tournai, il y aura un week-end à Toulouse. Et il y a des soirées au niveau des couples. Donc il y a eu une proposition sur les aidants à Vélat, de rencontres sur une journée.
Et une sur Pau.
Puis il y a eu sur Pau. Et puis il y a une soirée qui a eu lieu la semaine dernière, je crois. Justement, donc des couples qui ont des aînés à prendre en charge et qui se sont retrouvés pour échanger sur comment prendre en charge nos aînés.
Ouais, nous avons aussi un groupe qui rassemble des gens qui sont dans la situation d'être des divorcés remariés. Ce sont des chrétiens divorcés remariés. Et liés à cette situation, un lieu pour se retrouver, avancer dans cette problématique.
Une rencontre mensuelle et un week-end. Ce groupe s'intitule Chemin d'espérance.
Merci pour ce tour d'horizon des missions et propositions des Cotopaïs. Nous allons parler dans quelques minutes de l'agenda des mois à venir. Vous avez déjà un petit peu ébauché cette partie, mais on va rentrer dans le détail. En attendant, c'est le moment de faire la pause musicale dans cette émission. Nous allons écouter un extrait du Requiem de Mozart qui est donné ce soir à la Halle au Grain à Toulouse par le Bach Collegium Japan. C'est le Kyrie dans une version enregistrée par la prestigieuse formation japonaise.
Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne avec mes trois invités, Karine Jean-Jambre, Brigitte Lécuel et Xavier Lavignotte, tous membres des Cotopaïs, les centres spirituels jésuites dans le sud-ouest. Nous avons présenté la mission tout à l'heure de ces centres spirituels jésuites et les propositions en première partie d'émission. Et en parlant de propositions, quelles sont celles programmées dans les semaines et mois à venir, celles que vous souhaitez mettre en avant, peut-être plus que d'autres?
Alors, déjà en février, nous avons des retraites à Échourgnac, en Dordogne, pour lesquelles il reste encore quelques places. Voilà, une retraite de 5 jours et une retraite de 8 jours.
Là, ce seront les exercices spirituels. Hein.
Voilà, les exercices spirituels. Et puis, plus proche de nous, sur Toulouse, en partenariat avec la paroisse Saint-Joseph et son curé et son équipe d'animation pastorale, nous mettons en place une semaine de prière accompagnée pendant le carême du 16 au 22 mars prochain. Donc c'est cette paroisse qui propose avec nous une semaine où les personnes s'engagent chaque jour à prendre un temps de prière avec la parole de Dieu. Ils sont guidés et ils rencontrent régulièrement un accompagnateur spirituel pendant la durée de cette semaine.
L'accompagnant spirituel, en général, c'est un religieux ou c'est quelqu'un vraiment de l'association?
C'est quelqu'un qui fait partie des personnes de l'association qui ont été formées à l'accompagnement spirituel.
La date, rappelez la date.
Du 16 au 22 mars, à la paroisse Saint-Joseph, près du pont des Demoiselles.
Alors, on parlait du pôle famille, donc une date qui peut intéresser des auditeurs, le jeudi 6 mars, il y a une soirée autour du thème vie professionnelle et vie familiale, donc au Cotopaïs, rue Montplaisir, pour justement échanger et voir comment trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Donc là, on y vient plutôt en couple on échange ensemble autour de ce thème, dans ce pôle famille. Donc le week-end SLUI-SL, les 5 et 6 avril à Toulouse. Et un autre week-end pour les familles, notre vie à deux au souffle de l'esprit à Vélaz. Et là, c'est un week-end cette fois. Donc on prend le temps en couple.
Mais j'aimerais bien que vous développiez ce thème SLUI-SL parce que...
Oui, d'ailleurs, SLUI-SL, il y en a un à Tournailles, plus près de nous.
Le 1er février.
Ah, oui, tout à fait.
Le week-end du 1er et 2 février. Donc, ce n'est pas le week-end qui vient, mais c'est le suivant.
On peut encore s'inscrire,
reste encore un peu de place.
SLUI-SL, c'est une question un peu vertigineuse, je trouve, et qui me paraît délicate à poser, et à se poser d'ailleurs. C'est-à-dire, on vient avec son conjoint, futur mari, future femme, et on dit, mais est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est le bon? C'est ça la question.
Non, c'est pas...
Je caricature, mais...
Oui, non, ce n'est évidemment pas la question. Ce n'est pas un mode d'évaluation de l'autre où on va le cocher à la fin, le garder ou quoi.
Oui, mais ça, SLUI-SL quand même, comment on répond à une question comme ça?
En vérité, la question, c'est de se rendre compte au point où on en est, de ce qui déjà prépare ou non un engagement plus durable l'un envers l'autre. Et de revenir sur son histoire, sur le point où on en est et ce vers quoi on veut aller. Et c'est plus en fait l'occasion pour un couple, alors un jeune couple, ce qui ne veut pas dire forcément que les deux sont de jeunes gens, mais pour un jeune couple de...
Un couple qui s'est formé de manière récente.
Qui s'est formé de manière récente, de creuser ensemble leur désir d'aller plus loin et sous quelle forme et à quelles conditions. Traditionnellement, autrefois, il y avait des week-ends fiancés qui correspondaient à une réalité. Aujourd'hui, la réalité a changé. Mais la nécessité pour un couple de prendre le temps de réfléchir à son désir d'engagement, à son engagement mutuel, ça reste et je dirais ça s'est renforcé.
Je crois qu'on peut dire que c'est un week-end duquel on ressort en ayant grandi dans une connaissance mutuelle l'un de l'autre. Et c'est un week-end qui s'adresse à des couples qu'ils aient ou non déjà pris la décision d'avancer ensemble dans un engagement plus précis. Voilà. Ça peut être en amont d'un engagement, mais ça peut être aussi que les gens soient déjà engagés, mais veulent prendre le temps parce qu'il y a peut-être eu... petite crise ou quelque chose, en tout cas...
S'ils arrivent, c'est qu'ils se posent déjà la question, a priori.
Voilà, c'est ça.
C'est pas vous qui les forcez à se la poser.
Non, mais pour des gens qui se posent la question, et c'est important aussi, chacun a une manière de se poser la question qui lui est particulière. Et là, c'est un lieu où on ne va pas leur dire quelles questions ils doivent se poser ou comment ils doivent se la poser. C'est vraiment le lieu qui va leur permettre de poser entre eux, à deux, et aussi un peu chacun pour eux-mêmes, cette question-là de leur couple, de ce qu'ils veulent vivre ensemble.
Qui sont les intervenants d'un tel week-end où on se pose ces questions SUSL?
Alors,
Sont des gens mariés, justement, qui ont une expérience de couple?
Ce sont des gens qui sont effectivement en couple, qui ont une expérience de couple et qui, en fait, aussi, en proposant ce week-end, font rejouer leur propre expérience de couple, en fait. Donc, ce sont des couples, là, qui animent ces week-ends de manière préférentielle.
Parce que la question que je me posais, c'est que ce sont des gens aussi qui ont eu... un enseignement psychothérapeutique ou, voilà, est-ce qu'il y a cette dimension-là?
Alors, la dimension humaine psychologique n'est pas évacuée. Après, ce n'est pas non plus un week-end.
Oui, si. On ne passe pas sur le divan.
Non, on ne passe pas sur le divan. Il peut y avoir des éclairages psychologiques, mais ce n'est pas... Voilà.
Oui. Pas la porte d'entrée.
C'est pas celle-là, d'abord la porte d'entrée.
C'est important de le dire.
La porte d'entrée, souvent, en fait, qui est celle qui est vraiment proposée dans la tradition qui est la nôtre, c'est ce qu'on appelle la relecture de vie, c'est-à-dire l'histoire que l'on a vécue jusqu'à aujourd'hui est une histoire sainte. C'est-à-dire c'est une histoire qui construit notre relation à nous-mêmes et à Dieu. Et revenir sur notre histoire, pour la reparcourir, ça nous enseigne en fait. Et ensuite, autre chose, c'est ce qu'on appelle le discernement, avec un mot très compliqué, mais qui veut dire simplement aussi regarder en soi-même ce qui compte vraiment pour moi. Et en regardant en nous-mêmes ce qui vraiment compte pour nous, pouvoir choisir ce qui va nous amener à davantage de vie.
regarder lucidement, en toute sincérité et honnêteté aussi, ce que l'on est, ce que l'on souhaite, et ce que l'on souhaite avec l'autre.
Et aussi ce qui nous pèse. Et aussi ce qui nous pèse, parce que on peut être aussi habité intérieurement par des choses qui deviennent des obstacles pour nous.
Et pour l'autre aussi,
et pour l'autre. Et des obstacles pour Dieu.
Et donc, parce qu'évidemment, l'aspect spirituel n'est jamais évacué, même dans une proposition comme celle-ci.
Non, l'aspect spirituel, il est toujours présent.
Ouais.
L'idée, c'est que Ignace disait, chercher et trouver Dieu en toutes choses. Et nous croyons que Dieu nous parle en toutes choses.
On prend parfois l'image du bateau pour faire comprendre aux gens. Finalement, notre vie, c'est comme un bateau. Le bateau, il avance, mais par moments, le vent tombe. Par moments, il y a des vents contraires, il y a des tempêtes dans nos vies. Et toutes ces propositions, elles essayent de permettre aux personnes de regarder qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui affecte ma vie en positif, en négatif, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui, au contraire, donne de l'élan. Et à plus forte raison, quand on envisage de s'engager à deux ou qu'on est déjà depuis quelque temps à deux, prendre le temps de s'arrêter pour voir comment on continue.
Oui, puis un bateau qui a subi des tempêtes peut avoir besoin d'être réparé aussi.
Voilà.
Ça, je pense que c'est important pour continuer à avancer, surtout si on veut avancer à deux. Mmh. Alors, il y a une formation à l'écoute le 8 février. Quel va en être le contenu? C'est sur 4 jours et ça se passe à Toulouse.
Oui, c'est la formation dont je vous parlais tout à l'heure, qui a commencé donc les 11 et 12 janvier. Maintenant, c'est trop tard là, pour s'inscrire à celle-ci, parce que c'est la quatrième journée d'une formation. Donc,
qui se fait sur plusieurs week-ends.
Voilà, c'est ça, oui.
Dans le pôle famille, on a une proposition aussi qui s'intitule « L'un croit, l'autre pas ».
Oui.
Alors, c'est une proposition qui était prévue en octobre et qui a été reportée, je crois, à fin avril, de mémoire, 26-27 avril. Voilà, ça aussi, prendre le temps, quand on est de confessions différentes ou justement que l'un croit et l'autre pas, de prendre le temps de s'arrêter et de prendre un peu les moyens de se dire comment on peut continuer ensemble à avancer alors qu'on avance avec des chemins différents au niveau de...
Oui, parce qu'il y a plusieurs configurations. Il y a l'un croit et l'autre pas. Mais ça peut être aussi des gens qui croient différemment.
Voilà.
Là, ça s'adresse spécifiquement à ceux où l'un croit et l'autre pas. Quand l'un des deux se définit comme athée, agnostique, incroyant, indifférent.
S'enrichir et chercher ensemble les chemins de croissance.
Et puis, arriver à échanger, parce que le respect de l'autre peut aboutir à une mise à distance, en fait. Alors, là aussi, l'origine de cette proposition sont tout simplement des couples qui vivaient cette situation, qui se sont rendus compte que ça les conduisait à vivre leur relation avec un cadre qui était important et qui ont mis en place tout un travail pour arriver à avancer de ce côté-là.
Oui, je pense que ceux qui viennent participer à des propositions comme celle-ci, c'est que ça leur pose un problème, a priori, que l'un croit et l'autre pas.
Alors, ça peut être que ça leur pose un problème ou qu'ils ont envie...
Ou en tout cas des incompréhensions.
Oui, ou qu'ils ont envie de développer le potentiel relationnel, le potentiel d'amour qui se trouve dans cette situation. Parce que, évidemment, quand on a une difficulté, on pense à la régler. Mais cette situation-là, elle crée aussi, je dirais, des opportunités particulières.
Bah, un enrichissement, éventuellement.
Un enrichissement.
Ça oblige à se poser des questions.
Voilà, ça oblige à se poser des questions, ça oblige à travailler cette question-là ensemble, à la cultiver. C'est pas simplement, en fait, un aménagement, mais ça peut être aussi un véritable lieu de croissance pour l'un et pour l'autre. Et potentiellement, et il y a un enjeu, je pense, important là-dessus, pour leurs enfants. Ça peut être un lieu complexe.
Oui, oui.
Et c'est aussi un lieu qui permet, du coup, la rencontre avec d'autres couples qui vivent cette même réalité. Donc, c'est aussi une forme d'enrichissement. Ce temps de rencontre avec d'autres, ça est toujours confortant.
Notamment si ce sont des couples qui sont peut-être plus avancés dans la relation et dans la vie.
Alors, voilà, ce n'est pas les mêmes couples
qui ont un retour d'expérience
pour le week-end, SLUSL.
Oui.
C'est sûr. Proposition aussi, on va avoir une retraite, alors là, qui est selon la spiritualité ignatienne, mais qui a une porte d'entrée particulière avec le cinéma, qui sera proposé à l'abbaye de Maumont, et sur le thème de l'itinérance.
Donc ça, c'est Charente. Hein.
C'est Charente, c'est ça.
Ouais. Côté d'Angoulême, vous m'avez dit, je crois.
Et voilà, et là, la porte d'entrée, c'est le cinéma avec les films. Le cinéma, on dit souvent que c'est le reflet du monde et le miroir du cœur humain. Et donc, cinéma, parole de Dieu. Tout ça va se tricoter et voilà.
Comment vous procédez, là, quand vous dites c'est par rapport au cinéma, c'est-à-dire que vous utilisez des films pour illustrer un thème ou...
Sur le thème, il y a des films qui sont choisis chaque jour. Donc un chemin va être proposé de film en film, sous-tendu par un parcours biblique. Et les gens vont pouvoir prendre des temps de silence et pour se laisser habiter. Et là aussi, toujours un peu le même principe, c'est-à-dire comment tout ça résonne dans ma vie, comment cela vient éclairer telle ou telle partie de ma vie. Il me fait faire un chemin à la suite.
Il faut être un peu cinéphile pour adhérer complètement, s'intéresser au cinéma ou pas forcément?
Alors, il y en a qui viennent parce qu'ils sont cinéphiles, il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils se disent retraite cinéma, tiens ça alors.
Oui, par curiosité.
D'autres qui viennent par rapport au thème. Donc là, vraiment, à la différence d'une retraite selon les exercices, c'est des retraites qui ont un thème. Donc des fois, c'est le thème qui va faire que la personne va venir.
Et peut-être encore un mot de toutes les retraites. En fait, tout cet été, en juillet et en août, sont proposés les exercices spirituels de 3, 5, 8, 10 jours. Donc il y a énormément de possibilités.
L'été est sans doute une période privilégiée, hein, évidemment, pour les gens qui travaillent. Bon,
c'est une période...
Même s'il y a beaucoup de choses sur un week-end ou sur plusieurs week-ends, l'été, ça permet de faire ça peut-être sur une semaine ou plus.
Voilà, de prendre plus le temps de se poser sous le regard de Dieu.
Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année dans vos propositions, que ce soit concernant les thèmes, les contenus ou éventuellement les intervenants, les lieux ?
Alors, il y a une nouveauté concernant les retraites, c'est que cet été, fin août, du 25 au 31 août, il y aura une proposition de retraite à l'attention des jeunes. Une retraite selon les exercices, avec aussi, voilà, on appelait ça retraite-service, un petit temps de jardinage ou de petits travaux. C'est vraiment une retraite réservée pour les jeunes.
Voilà, alors quand vous dites les jeunes, c'est à partir de quel âge ?
Étudiants, jeunes professionnels ?
Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui restent jeunes plus longtemps. Mais non, enfin, c'est des gens d'une
vingtaine. Ça peut aller jusqu'à des gens qui ont presque la trentaine éventuellement ou...
Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes jeunes, il y a un certain temps avant d'entrer dans une vie adulte pleine. Et donc, cet âge de la jeunesse se prolonge un petit peu, donc on en tient compte. Mais l'enjeu pour nous, c'est de leur proposer vraiment une expérience de retraite spirituelle qui s'adapte à leurs attentes aussi, même si c'est une vraie retraite accompagnée en silence. Voilà, on est dans les bases de la retraite, mais pour eux, pour qu'ils puissent se retrouver. Et par ailleurs, on parlait tout à l'heure du fait que nos propositions ne sont pas gratuites. Nous avons besoin de financement pour fonctionner. Donc nos retraites, évidemment, sont payantes. On subit d'ailleurs la hausse des coûts d'hébergement qui se fait régulièrement. Donc pour ces jeunes, on va proposer des prix nettement plus attractifs pour leur faciliter les choses. Je dois dire que nos tarifs, très souvent, sont modulables. C'est-à-dire qu'on pratique des tarifs avec une solidarité, comme on dit, négative ou positive. Donc certains paient plus pour que d'autres puissent...
Ils ont plus de moyens.
Payer moins.
Voilà, cette forme de solidarité que vous évoquez, en fait.
Voilà, tout à fait. Après, pour des personnes qui sont en difficulté financière, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous en parler. Et...
Dans leur lettre de motivation, de dire que...
Oui, donc il faut en parler très librement. Voilà. Il n'y a pas de jugement, bien sûr.
Il n'y a pas de jugement. On est sur un principe de réalité, que les choses ne sont pas gratuites et que pour fonctionner, il faut avoir des ressources. Mais on est aussi sur un principe de réalité qui fait que certaines personnes ne peuvent pas financer...
L'intégralité du coût d'une retraite.
Du coût de la retraite.
Mais en ont un vrai besoin, donc.
Ils en ont un vrai besoin, donc voilà, ils seront pris en compte.
Voilà, vous essayez de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de limitant, voire d'excluant.
Tout à fait.
Alors, on sait que c'est difficile, mais les personnes qui sont dans des situations difficiles, il ne faut pas qu'ils hésitent à le dire.
Oui, parce que parfois, ils ont du mal, évidemment, à en parler. Pour terminer, vos propositions, vous essayez de faire en sorte que ce soit des petits groupes, que ce soit un petit peu personnalisé d'une certaine manière.
Alors, on essaie de faire en sorte que ça soit toujours personnalisé, parce que la vie spirituelle, c'est un cheminement qui est...
Personnel.
Unique.
Extrêmement personnel. Ignace disait, notre travail, nous, c'est de favoriser la rencontre, alors comme disait Ignace, entre la créature et son créateur. Donc, l'enjeu, en fait, de tout ce que l'on cherche à faire, c'est la rencontre vraiment de la personne que nous accueillons avec Dieu. Et donc, oui, quand on fait des groupes, on fait des petits groupes, on favorise des temps d'échange entre les personnes et on essaie de...
Que chacun y trouve sa place aussi. Est-ce qu'il est venu chercher, bien sûr.
Puisse trouver sa place et trouve des personnes qui lui reconnaissent sa place aussi.
Alors, pour terminer, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.coteau-pais.net et à nous téléphoner ou à nous écrire si vous avez besoin de plus d'informations.
Au 05 62 71 65 30.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un grand merci à tous les trois d'y avoir participé, de nous avoir présenté les Coteaux Pais, tout ce que proposent les centres spirituels jésuites du Sud-Ouest. Je pense que chacun d'entre nous peut y trouver des pistes à explorer en fonction de ses préoccupations et attentes personnelles du moment. Si vous voulez en savoir plus ou vous inscrire à une retraite, une formation ou un groupe de réflexion, je vous invite de nouveau à consulter le site qu'a cité Karine Jean-Jambre, www.coteau-pais.net. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous à l'écoute de Radio Présence. À la semaine prochaine.